Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré Olivier Liron le jeudi 28 et le vendredi 29 mars avec mes élèves de La Flèche et du Mans. Olivier Liron a d'abord rencontré mes élèves de seconde 4 à La Flèche, au CDI du lycée Estournel de Constant. Dans cette deuxième partie de la rencontre, il est question de ce qui pousse à écrire, du diagnostic d'autisme, Asperger, de la différence et de l'exil à travers le livre de neige, son troisième livre.
Alors à écrire ?
J'aime bien ça, j'ai pas eu besoin de... C'est pas du tout ça qui m'a poussé à écrire en fait. Je me dis bien, j'étais gamin, j'écrivais, j'aime lire, j'aime écrire, donc je fais ça, c'est pas du tout ça qui a déclenché. C'est comme si tu joues de la musique, t'aimes bien jouer de la musique, tu continues à jouer de la musique, et puis après tu prends tes... Mais non, j'aime bien ça quoi. J'aime bien inventer des choses, j'aime bien...
Il y a des extraits dans la stratégie de la sardine de ce que vous avez écrit. Vous les avez choisis comment, ces extraits ?
Un peu par hasard, en fait. Je ne sais plus. J'étais dans le garage en train de chercher un truc pour réparer mon vélo. Et j'ai vu des carnets avec des trucs que j'avais écrits au lycée ou au collège. Je ne m'en souvenais plus que j'avais écrit ça, vraiment. Et en fait, j'ai relu. Je fais « Ah, waouh ! Ah ouais, j'étais quand même... » Je reviens de loin, quoi. J'étais là, genre, voilà. Donc du coup, j'ai pris des aussi, un peu, voilà, j'ai fait mon documentaire en mode Orelsan, sauf que personne me connaît. Mais j'ai pris des trucs, des vieux trucs. Ah tiens, ça, j'avais fait ça, j'avais fait ci, j'ai des cahiers, des machins. Je me suis éclaté à faire ça. Et voilà. Et en fait, quand on retrouve des trucs quand on est petit, c'est fou, quoi. Des trucs qu'on garde après, plus tard, et qu'en fait, on est déjà vachement, on est déjà la personne qu'on va être ensuite, quoi.
Pouvez-vous parler de votre expérience en tant qu'écrivain diagnostiqué autiste Asperger et comment cela influence votre écriture ?
C'est vrai, moi, j'ai pas eu de diagnostic quand j'étais enfant. Après, adulte, j'ai eu ce diagnostic-là. Je pense qu'il est... Il est OK, hein, puisqu'il a été posé. Quand j'ai eu ce diagnostic, je me suis dit, waouh, encore un truc en plus, là. Un truc à gérer. Et après, en fait, j'ai compris que ça correspondait assez bien à ce que j'avais vécu. Donc en fait, c'est un spectre, hein, tu vois, si tu parlais d'autisme, il y a vraiment... Donc tu peux être, si tu veux... En plus, les gens disent que c'est un spectre pour dire qu'il y a plein de façons d'être autiste. Mais en fait, du coup, moi, quand j'entends spectre, je vois des fantômes et des trucs un peu comme ça et tout. Je vois plein de... Bref. Donc c'est les... Voilà, on est des spectres, on est des fantômes, un peu des trucs comme ça. Mais non, du coup, j'ai eu un peu du mal à accepter ça. Après, je me suis rendu compte que ça correspondait bien. Mais j'avais pas forcément envie de me définir comme ça et que voilà, ça m'a, je pense pas que ça, le fait de le savoir m'a pas changé ma façon d'écrire. Je me dis que ça m'aidait à me comprendre et ça m'a aussi apaisé. Je me suis dit, ok, peut-être tu réagis comme ça parce que toi t'as un type de personnalité qui est comme si.
Ça rend pas les choses plus difficiles, enfin je sais pas, j'en sais rien.
Moi, je trouve ça plutôt bien, les diagnostics, parce que tu vas savoir, par exemple, moi, je suis hypersensible, ou je suis dyslexique, etc. Alors, tout ça, c'est des réalités très différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça t'aide quand même un peu à comprendre. Ça veut pas dire que tu vas être défini parce que c'est pareil que la couleur de peau, que l'orientation sexuelle, que toutes ces choses-là. Bah, ça fait partie de plein d'éléments qui te définissent, ton genre, enfin, tout, tes origines et tout ça. Mais c'est pas, tu vas pas être réduit à ça, mais ça fait partie de ce que t'es. En fait, si tu en es conscient, bah, tu peux l'affirmer, tu peux en être fier, tu peux dans ton art ou dans ta façon de t'exprimer, tu peux aussi aborder certaines thématiques en te sentant légitime parce que tu sais comment toi tu fonctionnes et tu sais. Moi, je pense que c'est bien, quoi. Mais après, je me sens pas du tout dans une case où de me dire je représente un groupe de personnes ou je représente des personnes aussi, parce que chacun est différent, voilà. Je pense que c'est juste, tu sais qui tu es, et après tu racontes. Moi, j'ai une amie qui vient de banlieue, mais elle écrit pas que des pièces de théâtre sur la banlieue. Enfin, là, elle a le droit d'écrire sur ce qu'elle veut, quoi. Donc, bah, après, chacun. Mais je pense que c'est bien de savoir d'où on vient, qui on est, comment on est. Moi, ça m'aide à comprendre les autres.
Et
enfin, je veux dire, à pouvoir être compris des autres. Et il me dit, ah ok, mais il réagit comme ça, mais c'est normal, il fonctionne comme si. En fait, ça aide, en fait, aussi. Là, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que c'est bien, mais voilà, je trouve que c'est intéressant comme démarche de chercher à se comprendre, quoi. Mais parfois, c'est pas des diagnostics, hein, ça peut être. C'est chercher à se comprendre, c'est important. Chercher à comprendre qui on est, de quoi on a envie, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous met en colère, de quoi on rêve, enfin, je sais pas. Voilà, c'est. Je pense qu'il faut vraiment se connaître pour faire en plus un truc. Tu vas créer quelque chose, tu as besoin de te connaître. Peut-être un peu moins quand tu écris des livres, parce que tu peux toujours. Mais même pour imaginer des choses, tu as quand même besoin de savoir. Mais si par exemple tu fais. Bah justement, moi j'aime beaucoup la danse. Si tu fais de la danse, tu as besoin de connaître parfaitement ton corps, de connaître parfaitement comment tu vas, tes émotions, ta respiration. Nous. Si tu veux ensuite proposer des choses, si tu veux pouvoir maîtriser ton. Je pense qu'on a besoin de se connaître en fait pour faire des choses dans la vie, quoi. Et ses limites aussi, parce que moi quand j'étais enfant, je pensais que j'étais capable de tout. Enfin, peut-être un peu en réaction là, tu te dis ouais, mais je vais faire plein de trucs, mais en fait non. Enfin, après, on est super fragile, il y a plein de trucs que c'est pas notre truc, on peut pas faire. Et, en fait, se connaître, quoi, qui on est et ce qu'on n'est pas surtout, parce que quand tu te construis, t'as plein de choses, on te dit tu dois être ça, quoi. Tu dois être comme si, tu dois faire ça, tu viens de tel milieu dont tu vas faire ci. Moi, j'ai une famille d'immigration aussi, donc je vois bien, ma mère racontait, quand elle était petite, on disait, faut que tu sois si, mais ça, tu pourras pas faire ça. Donc, en fait, quel que soit ton parcours, on va toujours te dire, tu dois faire ça. Après, il y a une partie de toi qui échappe aussi à ça, et tu te dis, moi, ce que je suis, c'est ça, et j'ai envie d'être comme. Ça prend aussi du temps, mais voilà.
Justement, ils n'ont pas lu le livre de Neige, mais moi, je l'ai lu, qui parle justement de cette maman qui part de l'Espagne. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, moi, j'étais très proche de mes grands-parents, en fait. C'était très, 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 très violent aussi à la maison. Et donc, les grands-parents, c'était bien, parce que c'était tranquille, et c'était très safe. Et donc, les grands-parents, ils parlaient espagnol, ils étaient espagnols, ils étaient venus travailler en France... Pour à l'époque, l'Espagne était un pays très pauvre et vraiment, il mourait de faim, voilà, littéralement, quoi. Donc, c'était il y a plus de 50 ans, hein, il y avait encore le dictateur Franco, etc. Donc, il y avait rien. Donc, ils sont partis travailler. Ma mère était encore un peu ado aussi, et donc ils sont venus en France. Et voilà, mais après, comme plein de gens qui quittent leur pays et tout ça. Et malheureusement, c'était évidemment dur. En fait, moi, je connaissais cette histoire un peu par les récits que j'avais entendus, parce que ma grand-mère, notamment, elle me racontait plein d'histoires, des trucs qui se passaient. Voilà, il y avait machin qui était fusillé, il y avait la guerre, il y avait le bombardement, on avait machin. Tout. Moi, je regardais, c'était comme Netflix, quoi. J'étais pas du tout conscient, en fait, que c'était. Genre, waouh, c'est super, ils étaient à la cave, et puis il y avait les avions qui bombardaient, et puis ensuite, et le neveu, il a joué avec un ballon de foot, en fait, c'était une mine, et en fait, il a explosé, et puis il y avait du sang, et puis elle était. Mais c'est elle qui le racontait comme ça, hein. Pour elle, c'était. En fait, quand tu racontes une histoire, déjà, t'es sauvé parce qu'en fait, une fois que tu la racontes, tu fais ce que tu veux. Tu peux inventer des trucs. Et puis surtout, c'est toi qui réapproprie le truc. Donc, si tu racontes l'histoire, en fait, c'est toi qui reprends le pouvoir. Tu te fais insulter. Tu subis une insulte en raison d'un truc et tout. Et tu racontes là. Tu fais, ok, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Donc, ça, c'est du racisme, ça, c'est machin. En fait, tu te reprends le pouvoir sur ce qui t'est arrivé. Donc, ma grand-mère, elle avait quand même, évidemment. C'était pas. Pas marrant, quoi. Mais le fait de raconter la guerre, de raconter tout ça, c'était. Elle adorait, elle a passé sa vie à raconter ce qui lui arrivait. Et puis, moi, j'écoutais ça et je me dis, ah, ce serait intéressant de savoir. Parce qu'à l'école, je n'entendais pas parler. À l'école, tu n'entends pas parler, enfin, en tout cas, à l'époque, moi, les cours d'histoire géo, c'était pas les ouvriers étrangers qui sont arrivés travailler en France. Enfin, clairement, ça faisait pas partie du programme. Donc j'étais là, genre, c'est super l'histoire de France, mais moi, personnellement, du coup, ma famille, je sais pas ce qu'elle fait là, quoi. Et évidemment, c'est grave, quoi. C'est grave. Ça me surprenait, quoi. Et j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Et je suis parti à la recherche, en fait, j'ai essayé de retracer le parcours des grands-parents et de ma mère jusqu'à aussi après que moi, j'arrive dans l'histoire. Mais en fait, de partir sur les origines de la famille, parce qu'on ne m'avait jamais raconté, parce que eux, c'est pareil. Ma mère, elle est arrivée, il lui mettait du scotch sur la bouche, elle ne parlait pas français, donc il lui mettait du scotch pour pas qu'elle bavarde, pour essayer de suivre le cours. Enfin, c'était vraiment horrible. Et donc, Voilà, il y a plein d'histoires comme ça que j'ai voulu raconter parce que justement j'avais déjà vachement parlé de moi et j'en avais un peu marre. Et donc là, c'était des autres générations, c'était les origines, c'était... Et puis bah, ça, toute l'histoire en fait, des ouvriers qui sont venus travailler, il y avait des, après moi c'était des Espagnols, mais il y avait des Portugais, des Algériens, des... après la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1945, quoi, jusque dans les années 70, et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Espagnols, et puis il y avait vraiment des bidonvilles à l'époque en région parisienne. Vraiment, il n'y avait pas de, il y avait pas d'eau potable, il y avait pas de, c'était très, très pauvre en France à ce moment-là. Et après, ils ont construit beaucoup de HLM avec aussi un truc un peu bizarre, parce qu'après, c'est devenu effectivement des trucs qui étaient un peu ségrégés spatialement, vous voyez, qui est un peu après l'origine des cités aujourd'hui, mais c'était des constructions énormes pour loger les gens. Mais en fait, au départ, le HLM, c'était vraiment le rêve. Mes grands-parents, ils n'avaient rien, et quand on leur a donné un HLM à la Courneuve, c'était juste le confort absolu, ils n'avaient jamais eu de salle de bain, des trucs comme ça. Donc tout ça, ça m'a intéressé de voir, en fait, tous les gens avaient vécu ça, mais pas que des étrangers, mais tous les gens qui travaillaient les gens du milieu populaire qui travaillaient jusque dans les années 60, qui pas forcément une histoire qu'on a en tête en fait quand on pense à quand moi je suis né à la fin des années 80 et clairement j'avais tout ce qu'il fallait quoi, enfin j'étais beaucoup beaucoup plus favorisé que ma génération donc voilà, j'ai raconté ça et en fait je suis allé interroger les personnes de la famille et d'autres gens et puis aussi des livres, des films et tout ce que je pouvais voir documenté, donc c'était super long à écrire. Mais là, pareil, t'as plein de gens qui sont arrivés d'un autre pays, qui ont lu le livre et qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Ah, ça m'a parlé de ça, parce que moi, j'ai pensé le truc, puis moi, c'est mes enfants, puis moi, j'ai eu honte parce qu'en fait, je serais un truc, mais j'ai toujours eu honte des enfants de parents. » En fait, on passe notre vie à avoir honte, quoi. C'est un sentiment qui est super important dans la vie. On est tous traversés par plein de honte, quoi. On a honte de plein de choses. Et c'est intéressant, quand tu écris des histoires, tu racontes des histoires, c'est que finalement, tu fais exister aussi une parole... que les gens ne peuvent pas prendre parce qu'ils ont peur s'ils l'apprennent de mourir presque. Parfois, c'est violent. Si tu dis quelque chose qui est interdit, si tu dis quelque chose que tu as fait qui est interdit, tu peux physiquement mourir dans certains contextes. Ou en tout cas, tu peux te confronter à un... Donc, quand tu fais émerger des récits, tu fais exister des récits, les gens peuvent se reconnaître. C'est pour ça que des fois, je pars d'histoires qui me sont arrivées, mais ce n'est pas du tout pour raconter ma vie. C'est que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont été victimes de violence et qui vont se reconnaître. Même s'ils ne sont pas autistes et qu'ils n'ont pas été harcelés comme ça. Et, enfin, vraiment, ce n'est pas du tout un truc, comment dire, de... Ce n'est pas une communauté Instagram, en fait. Enfin, je n'ai rien contre la communauté Instagram, mais ce n'est pas la même chose, quoi. C'est-à-dire que d'autres gens peuvent se reconnaître dans ce que j'écris. Et c'est cool, et des fois, j'ai des gens très vivants, je n'aurais peut-être pas croisé sinon, et...
Voici la lecture de l'Inkipit du livre de Neige. Note en exergue, je ne suis pas une et simple, mais complexe et multiple. Virginia Woolf, Les Vagues. Traduction de Michel Cusin. J'ai voulu écrire ce livre comme un cadeau pour ma mère Maria Niebes, dite Niebes, qui signifie neige en espagnol. Un livre pour elle, entre vérité et fiction, un portrait romanesque par petites touches. Comme des flocons, aux origines. Madrid, années 30. Carmen de la Fée grandit dans le quartier de Legazpi, au sud de la ville, au sein d'une famille de 13 frères et sœurs. Parmi eux, 5 sont morts en bas âge. Carmen est très proche de sa grande sœur, la Bernarda, qui s'est mariée jeune. Elles chérissent leur mère Anna, una santa mujer, et se méfient du borgne, leur père violent et alcoolique. Dès qu'il a le dos tourné, elles murmurent entre leurs dents « El cabron !» Juste avant la naissance de Carmen, 2 jumeaux sont morts. Sa mère Anna lui a dit « Les enfants qui meurent deviennent des anges. » Alors, quand elle sent une légère brise agiter les rideaux dans une pièce aux fenêtres fermées, quand elle éprouve une impression de fraîcheur sur ses tempes, un chuchotement inexplicable autour d'elle, elle sait que ce sont les jumeaux. Un dimanche, elle était en train de plier un couvre-lit dans la chambre de ses parents quand elle a entendu un grand froissement d'ailes. Elle s'est retournée, a senti leur présence, ses anges gardiens. Il faut se représenter le quartier de Legazpi avant la guerre d'Espagne, un quartier comme tous les autres quartiers de Madrid, avec des cloches, des horloges et des arbres, de la lumière sur tout cela comme un psaume. un immeuble avec des géraniums accrochés aux fenêtres et des couloirs interminables où courent toute la journée des chiens et des petits-enfants. Des rires qui éclatent dans le soir en grands bouquets parfumés. Au dernier étage vivent les Machado, un vieux couple d'antiquaires, et leur perroquet Gaston, la mascotte de l'immeuble. Quand elle va sur le toit pour faire sécher le linge, Carmen voit au loin le visage sec de la terre de Castille, comme un océan de cuir. Elle laisse le soleil inonder son visage. La gratitude des jours d'enfance est infinie. Carmen ne sait ni lire ni écrire. Elle aide sa mère à la maison. Très pieuse, elle adore se rendre à l'église de la Virgen de la Paloma et allumer des cierges pour sa mère et sa grande sœur. Pourtant, leur nom de jeune fille est De la Fée, trace des origines juives de la famille. À la fin de la Reconquista, en 1492, les Juifs et les musulmans qui vivaient en Espagne furent dans l'obligation de se convertir au christianisme, sous peine d'être jetés au bûcher, le baptême ou la mort. Telle était la devise funeste du prêtre dominicain Vincent Ferrier, qui pensait aussi que les Juifs étaient des animaux avec des queues et menstrués comme les femmes. Les noms Santa Cruz, Amor de Dios ou Ave Maria viennent de cette conversion forcée. Les Juifs qui continuaient à pratiquer secrètement leur religion furent désignés comme les Marranos, les porcs, et persécutés par l'Inquisition. Pour survivre, beaucoup adoptèrent des noms outrancièrement catholiques. José, Maria, Santiago, Jacobo, Thomas. Carmen est loin de s'en douter quand elle allume des cierges à l'église. Son plus grand bonheur est d'aller au marché. Elle aime la rue pleine de vie, les cris des vendeurs et l'odeur du pain chaud, les marchandes de poissons qui trônent parmi les merlus, le bacalao et les calamars, l'huile d'olive, la pulsation de la ville, la beauté des toits sous le soleil froid, les flèches des églises qui s'élancent vers le ciel. Les pommes de terre comme des lingots d'or. Elle touche les pastèques et les chirimoyas, les poivrons et les tomates bien mûres. Les jumeaux lui chuchotent un jour. La vida es un regalo. La vie est un cadeau. À la tombée du soir, elle marche avec Bernarda dans la calle Princesa ou la Gran Via. Elles vont jusqu'à la Puerta del Sol, passent devant les tables bondées de la Taberna de Correos, où se donnent rendez-vous de jeunes poètes inconnus de la Residencia de Estudiantes, des inconnus nommés Rafael Alberti, Federico Garcia Lorca ou Pablo Neruda. Mais un matin, tout se met à brûler. Madrid est en feu, comme si tous les bûchers de l'enfer étaient sortis de terre pour dévorer les êtres vivants. La poudre, le sang. On est en 1936, l'Espagne vit sous la Seconde République et les élections sont marquées par une victoire écrasante du Front populaire. Une partie de l'armée espagnole, commandée par le général Franco, lance un coup d'État depuis le nord du Maroc. Le pays entier est divisé en deux camps. Quand la ville est bombardée, la famille se réfugie dans la cave d'un immeuble. Carmen invoque ses anges. Elle ne comprend pas la guerre, ou plutôt, elle comprend que c'est exactement cela, la guerre. Ne plus rien comprendre. Les républicains sortent victorieux de la bataille de Madrid, mais la guerre continue. Le lundi 26 avril 1937, les avions de la Légion Condor de la Luftwaffe et les Savoia Marchetti SM-79 de l'Aviation Legionaria de Mussolini bombardent Guernica. Carmen voit les avions étrangers qui arrivent tous les jours du ciel et le sang des enfants se met à couler dans les rues, simplement, comme au sangré des niños. Au début de l'année 1939, les forces républicaines s'effondrent. Des centaines de milliers de réfugiés espagnols s'enfuient pour gagner la France. Ils seront parqués dans les camps de la honte que l'État français appelle des camps de concentration. Le 28 mars, les franquistes font leur entrée à Madrid. Le dernier jour de la guerre, le mari de Bernarda, Luis, qui se bat aux côtés des républicains, est fait prisonnier. Dénonciation anonyme. Putain, dernier jour. La répression s'exerce avec une barbarie sans précédent. Au total, la guerre civile espagnole fera plus d'un million de morts pour un pays de 26 millions d'habitants. La petite Carmen met son plus beau chapeau. Elle accompagne sa sœur Bernarda chez le général Varela pour demander la grâce du mari. Elle patiente longtemps devant l'entrée du Palazzo de Buenavista, le siège du ministère des armées. Quand le général Varela fait son apparition, gants blancs en cuir de chevreau, bottes cirées, uniforme impeccable, escorté de ses soldats, il regarde la Bernarda et éclate de rire. « Tu es une très belle gitane, mais je ne peux rien pour toi. » 14 jours plus tard, Luis sera fusillé. C'était la deuxième partie de la rencontre avec Olivier Liron.